Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le mardi 18 janvier 2022, une journée toujours froide et grise dans le Beaujolais. Ce matin, il faisait moins de 2 degrés, cet après-midi, il fait 2 degrés. On a même des risques d'averses neigeuses ce soir du côté de Belleville. Qui allons-nous retrouver dans cette émission? Eh ben, on a rendez-vous avec le coach. Sur quel sujet est-ce qu'il va nous parler? Sur quel sujet est-ce qu'il va nous coacher? On ne le sait pas encore, lui seul le sait. On terminera avec Bertrand Lamure, notre libraire, et là on peut supposer qu'il va nous parler littérature. Avant ça, avec notre invité, on va peut-être déjà parler un petit peu de littérature, je ne sais pas. Il nous dira. On accueille aujourd'hui Jérémy Fischer. On l'avait reçu il y a plusieurs semaines pour nous parler de son livre Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde. On s'était laissé happer par le livre et par son histoire. On n'a pas eu le temps de parler de son activité professionnelle. Il est écrivain biographe, alors un métier pour le moins original. Il propose d'écrire pour vous et je crois aussi avec vous le livre de votre vie pour raconter votre histoire, celle de votre couple, de votre famille. Ça s'appelle Des racines à la page. On va donc se demander aujourd'hui en quoi ça consiste, de qui est-ce qu'il écrit la biographie, comment est-ce qu'il fait, pourquoi faire. On en parle dans quelques minutes. Des racines à la page avec Jérémy Fischer, écrivain, historien, archiviste, baroudeur, conférencier aussi, je crois, et aujourd'hui avec nous, biographe. On commence d'abord cette émission en musique, bien sûr. On écoute Gaëlle Faye qui nous raconte une histoire d'amour. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Histoire d'amour. C'est ce qu'on dit, y'a pas d'amour. Y'a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours. Moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance. Évidemment t'es l'évidence. Téléguidé par tes pouvoirs. Auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos. Éternité, cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire. Oh, terminé de tout et pour une fois. Kito konayo lokola. Sanza na minzoto likolo. Yonde mote me pona ho. Yonde na linga. Histoire d'amour. Histoire d'amour. Histoire d'amour. Oh, histoire d'amour. Histoire d'amour. Histoire d'amour. Oh, j'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée. Je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire. Na koko vanda kinyate. Mokilie bongi yeba. Bolingo yanga na yo. Suka seliwa. Histoire d'amour. Histoire d'amour. Alléluia, Ave Maria, femme au jardin, ma malaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum, vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie, oh c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia, Ave Maria, femme au jardin, ma malaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum, vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés. J'ai pire, c'est l'hérésie. Oh, c'est les lois loin d'Haïti. 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 Histoire d'amour. Histoire d'amour. Histoire d'amour. Oh,
Delphi sur Calade avec Histoire d'amour. Est-ce que notre invité en raconte des histoires d'amour? Probablement, il va nous le dire tout de suite.
Ensemble sur Calade.
Avec nous aujourd'hui en studio, on retrouve Jérémy Fischer pour nous parler de Des racines à la page, son activité d'écrivain biographe. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Et déjà merci d'être venu nous voir en studio. Vous en écrivez des histoires d'amour dans les biographies que vous écrivez?
Évidemment, ça fait partie de la vie, donc je parle évidemment des histoires d'amour de mes clients, de mes clientes.
Ouais.
Des histoires d'amour sur plusieurs générations, souvent. Puisque je peux écrire l'histoire d'une personne ou d'une famille sur 4, 5, 6, 7 générations. Donc évidemment, on a plusieurs histoires d'amour qui peuvent avoir lieu à plusieurs étapes du récit.
J'ai fait en début d'émission un peu votre... votre CV, ou en tout cas toutes les compétences que vous avez. Alors, on peut peut-être commencer par raconter votre parcours et expliquer ce qui vous a mené à devenir aujourd'hui écrivain biographe.
Ben, avec plaisir. Alors, depuis tout petit, je suis passionné d'histoire. Hein. Le premier contact avec la biographie, c'était vers 7 ans. Je lisais le dictionnaire, mais pas dans la partie des noms communs, mais dans la partie des noms propres.
Ah,
donc,
ouais.
Je lisais les petites notices biographiques des personnages célèbres. Et j'ai appris plein de dates comme ça, sans m'en rendre compte. Plus tard, j'ai fait la fac d'histoire à Strasbourg. J'ai fait un master de recherche qui m'a amené jusqu'en Pologne, puisque j'ai étudié pendant 2 ans un personnage historique méconnu en France, mais qui le sera plus quand ma biographie sortira d'ici 1 à 2 ans. Après ça, je me suis spécialisé dans les archives et j'ai fait un master complémentaire, un master de professionnel métier des archives à Lyon. Ce qui m'a permis justement d'apprendre des compétences de conservation, de collecte, de documents, d'archives que j'utilise aujourd'hui dans mon travail d'écrivain biographe. Et j'ai travaillé pendant 10 années dans la fonction publique comme archiviste. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans ma carrière professionnelle, j'étais en usure, j'ai eu besoin de faire autre chose. Et j'ai fait un tour du monde, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ce tour du monde m'a permis de faire un pas de côté, de sortir un peu d'un certain système, d'une certaine usure. Et ça m'a amené déjà à rencontrer beaucoup de monde. Comme vous l'avez dit, j'ai fait de l'autostop. Quand on fait de l'autostop, on peut rencontrer jusqu'à 10 de personnes par jour. Et dans l'intimité de la voiture, on peut entendre des confessions, justement, des histoires d'amour, des histoires de cœur, des déceptions, des problématiques. Et souvent... En autostop, eh bien, on sait qu'on va se voir une fois, qu'on se reverra jamais. Donc, les gens qui nous font monter dans la voiture sont souvent très ouverts à la discussion et vont se livrer assez facilement. Et puis, moi, j'aime écouter les histoires. Donc, effectivement, j'ai cette capacité d'écoute qui fait qu'ils se sont confiés assez souvent. Et au retour de ce tour du monde, en mai 2020, j'ai d'abord tenté de revenir dans mon activité initiale, les archives, et puis je me suis rendu compte assez rapidement que j'en avais pas envie.
Il fallait changer.
J'avais plus envie de ça. Et assez logiquement, alors c'est un processus, mais il y a à peu près 1 an, en décembre de l'année dernière, j'ai eu l'idée, et qui, quand je regarde un peu derrière moi, me fait vraiment sens, puisque j'ai cette formation d'archiviste, d'historien. Ça fait 15 années que j'écris la biographie de ce personnage historique. En parallèle, j'ai aussi écrit l'histoire de ma propre famille, donc j'ai fait ce travail que je propose à mes clients, je l'ai fait sur ma propre famille, en remontant sur 5-6 générations. Et ça a fait sens, et je me suis dit, j'ai les compétences, à mon sens, pour faire ce métier. Je me lance, et c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 1 an.
Il y a le côté, c'est ce que je me demandais un peu aussi au début, le côté littéraire, c'est-à-dire que quand on écrit une biographie sur la vie de quelqu'un, il faut que ce soit agréable à lire, et il faut avoir une plume, un style qu'on travaille, c'est pas forcément inné. Vous l'avez travaillé ce style?
Alors effectivement, j'écris depuis 15 années, puisque dès le cadre de mes études, donc j'ai rédigé un master, un mémoire de master qui faisait 250 pages. J'ai participé à des colloques, certains internationaux au Canada, en Pologne, en France, sur ce personnage historique. Et ça m'a amené à rédiger des publications scientifiques dans des ouvrages universitaires. Donc effectivement, je travaille ma plume depuis des années. Après, c'est vrai que écrire un article scientifique historique, c'est quelque chose de très spécifique. Maintenant, j'ai aussi écrit mon histoire familiale. Donc je m'exerce depuis longtemps. J'ai écrit le livre dont vous venez de parler, Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde. monde. C'est vraiment un livre qui a été écrit aussi au quotidien. Lors de mon tour du monde, c'était un blog. Et donc, tous les 2-3 jours, j'écrivais mes aventures. Et en fait, en revoyant un peu mon parcours, ça fait 15 ans que j'écris quasiment quotidiennement. Alors, ça ne veut pas dire que je suis un bon écrivain, hein, mais effectivement, l'écriture fait partie de ma vie quotidienne. Et moi, dans mon métier, j'interroge mes clients. Et l'idée, c'est qu'ils se reconnaissent aussi dans ce qu'ils vont lire. Et que leurs enfants et leurs petits-enfants se reconnaissent dans le livre qu'ils vont leur offrir. Donc évidemment, j'apporte quelque chose de moi dans ce que j'écris. Faut trouver un équilibre. J'essaye d'être très fidèle à leur façon de parler, mais j'apporte aussi des choses. Et justement, la difficulté en tout cas de ce métier, c'est de trouver cet équilibre pour peut-être rehausser de temps en temps le style, apporter des éléments de contexte. Je fais aussi des recherches historiques qui permettent de compléter certains trous, qui permettent d'avoir un récit plus fluide.
Ouais, justement, comment ça se passe, comment ça marche? Pour moi, un biographe, il écrit, c'est peut-être une idée bête que j'avais en tête, mais on écrit la biographie d'un roi de France, peut-être aujourd'hui d'une célébrité. Là, vous proposez à monsieur, madame, tout le monde d'écrire sa biographie. C'est quoi la démarche qu'il y a derrière?
Mais déjà, il y a un cheminement historique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au 19e siècle, les historiens, ils s'intéressaient aux historiens, ils s'intéressaient au roi de France, aux personnes très connues. Et puis après, on s'est plus ou moins intéressé aux personnes qui n'ont pas forcément laissé de traces évidentes. Mais au cours du XXe siècle, il y a eu plusieurs écoles historiques et on s'est intéressé justement aux Français ou aux paysans.
Qui racontent aussi quelque chose de l'histoire.
Voilà, qui sont partie prenante de l'histoire de France en l'occurrence. Et donc c'est un mouvement qui se décale des personnes célèbres vers monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde. Et moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est de permettre à des gens qui sont soucieux de leur histoire, qui sont soucieux de leur parcours et qui veulent transmettre. Moi, je dis souvent à mes clients que je vais les emmener en voyage mémoriel. En fait, on va faire un voyage ensemble. On va partir ensemble dans un voyage en remontant alors leur histoire propre, personnelle, mais des fois, leurs parents, leurs grands-parents. On va remonter le temps et on va permettre de transmettre cette histoire à leurs enfants et leurs petits-enfants.
D'accord. Donc, c'est des gens qui viennent à votre rencontre et qui vous demandent d'écrire leur biographie. On va dire c'est la première étape. Comment ça se passe ensuite, le processus de création de...
Alors concrètement, tout d'abord, il faut me contacter pour que nous puissions nous rencontrer. Alors je profite de cette occasion pour dire que je suis joignable au 06 52 42 91 31. C'est important d'avoir ce premier contact puisque je vais me rendre chez la personne qui est intéressée. Alors je me déplace à domicile. Il faut savoir que c'est une étape qui est offerte. Je vous l'offre à titre gracieux, c'est 2 heures de mon temps où je vais vous écouter pour que vous puissiez me parler de votre projet. Moi, en fait, mon ambition, c'est de faire du sur-mesure. Il y a des personnes qui voudront juste parler d'elles, d'autres personnes qui voudront parler de leur famille. Donc, l'idée, c'est de se rencontrer, de voir si ça match aussi humainement, si on sent qu'on a des atomes crochus, et de savoir quelle est l'histoire que vous voulez raconter. Une fois que je sais quelle est l'histoire que vous voulez raconter, quels sont les contours de cette histoire, moi, je vais vous proposer un devis. Je vais découper cette histoire en nombre de séances. Donc, ce sera des séances d'une heure à votre rythme. Ça peut être une fois par semaine, 2 fois par semaine, selon vos disponibilités. Et puis, le devis tiendra compte aussi du nombre d'exemplaires du livre que vous voulez écrire. Et est-ce que vous voulez des photos? Est-ce que vous voulez pas de photos? Donc voilà, je prends en compte tout le projet, tout ce que vous voulez faire. Et ensuite, si le devis est accepté, eh bien, on se rencontre à votre rythme. Et on fait des séances thématiques qui auront été prédéfinies. Et j'enregistre la séance. Et je laisse parler un maximum mon client, ma cliente. Néanmoins, je prends des notes et je la dirige après sur tel ou tel aspect.
Il faut quand même que la personne, elle se confie à vous et dise des choses très personnelles. Quelle position vous prenez pour accueillir ce que les gens ont à raconter et leur permettre de se confier, qu'ils vous fassent confiance?
Ce qu'il faut tout d'abord, c'est vraiment d'être dans une posture de bienveillance. Je le dis, je le répète, moi je suis pas là pour juger, on peut me dire des choses. C'est pas forcément l'idée de raconter une histoire édulcorée. On peut être vraiment dans la sincérité, et dans des histoires de vie, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on a douté, on a des accidents de vie. Et moi je suis pas là pour juger telle ou telle décision que vous ou vos proches ont pu prendre à un moment donné. Au contraire, je suis là pour remettre en perspective et peut-être amener certains à se dire que bah oui, ce qui s'est passé en 1972 ou en 73, ça vous a marqué à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes capable d'en parler, mais aujourd'hui, vous pouvez peut-être faire un certain deuil, et ça peut amener aussi, même si c'est pas l'objet principal, un processus thérapeutique. Et en tout cas, les retours que j'ai jusqu'à présent de mes clients, c'est que ah bah, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de tourner une certaine page, d'être dans la transmission, et en tout cas, les clients que j'ai déjà eu jusqu'ici sont ravis de l'expérience, et ont pas changé de vie, mais pour beaucoup, on tirait des traits sur certains événements de leur vie.
Une crainte aussi personnellement, je pourrais avoir en me lançant dans l'écriture d'une biographie avec un biographe, c'est de me dire les limites de ma mémoire. C'est que il y a des événements que je pourrais retracer, écrire. Alors, je suis encore jeune, normalement, je devrais m'en sortir, mais d'ici 15 ans, ce sera peut-être plus compliqué. Est-ce que c'est un frein, les limites de la mémoire des personnes avec qui vous travaillez, ou justement, vous arrivez à chercher des documents, etc., des
infos? Justement, toute personne, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de faire connaissance avec une personne, et tous mes clients ont des mémoires différentes. Et moi, mon travail, c'est vraiment de les amener. Alors des fois, tel client ne va pas se souvenir de quelque chose d'assez évident. Je sais pas moi, la date de ses fiançailles.
Ouais.
C'est l'un des plus beaux jours de votre vie, théoriquement. Et voilà, 30 ans, 40 ans après, on s'en souvient pas. Ben moi, mon travail, c'est par des moyens détournés de faire revenir cette mémoire. Alors je vais les interroger sur des moments annexes. Ouais. Et votre voyage de noces, vous vous en souvenez? Et souvent, ben en passant par des chemins de traverse, eh bien la mémoire revient. Et ah oui, c'est vrai, vous me disiez ça. Je sais maintenant ce que c'était. Ça peut arriver aussi sur une autre séance, sur une autre thématique, d'avoir un souvenir qui fait sens à une question que j'ai posée à une autre séance. Mais c'est vrai que moi, vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est moi, ma vocation, et ce que je veux faire, c'est que je vérifie déjà les informations. Alors, il y a des informations qu'on ne peut pas vérifier, mais si, par exemple, mon client me dit, ben moi, je me souviens, à 4 ans, j'ai vu le général de Gaulle dans les rues de Villefranche, voilà, ben moi, je ne vais pas prendre ça pour argent comptant. Je vais me renseigner, est-ce que le général de Gaulle est venu à Villefranche? Pas que je mette en doute sa mémoire.
Mais pour préciser.
Pour préciser, pour être sûr, voilà, est-ce que c'était le 6 juin ou le 14? Et surtout, est-ce que il ne s'est pas trompé? Ça se trouve, c'était le général Giraud ou un autre. Et donc, ça me permet aussi de mettre des éléments de contexte. Parce que mes clients ne sont pas historiens et ils vont me donner une information. Et je vais pouvoir, pas broder, mais mettre du liant dans le récit en ajoutant des éléments de contexte.
Ouais.
Quand on est dans tel pays à telle date, eh ben, y a un contexte historique et ça peut être intéressant et légitime de le rappeler en une ou deux phrases. Hein. Et ça, concrètement, c'est des informations qui ne me sont pas données par le client, mais c'est moi qui vais les chercher.
Vous m'avez amené un exemple de biographie que vous avez écrit. À l'intérieur, vous remontez sur cette génération, l'arbre généalogique, pour comprendre... le parcours de la personne, c'est son arbre généalogique. Je suis incapable de vous dire, de remonter dans mon arbre généalogique. C'est votre travail, vous, qui êtes allé chercher dans les archives pour proposer.
Alors ça dépend, je fais vraiment du sur-mesure. Donc il y a des familles qui ont déjà un arbre généalogique qui est réalisé, auquel cas, effectivement, moi, mes sources, c'est la mémoire orale. Enfin, la mémoire, et puis je fais des entretiens, mais je vais aussi puiser dans les archives que met à ma disposition la famille en question. Je peux aussi faire des recherches en parallèle, et donc souvent, effectivement, on se souvient des dates de ses propres parents, du prénom de la grand-mère, et si besoin, je peux effectivement faire des recherches. Je suis compétent, étant archiviste aussi de métier, à faire des recherches aux archives départementales, aux archives municipales, et en tout cas à retracer la généalogie, parce que ce qui est important pour moi, mais c'est ça dépend aussi du client, hein, certains ne voudront pas d'arbre généalogique. Moi, il me semble important, quand on raconte une histoire, notamment une histoire sur plusieurs générations, qu'à un moment donné, on ait des éléments pour comprendre qui est qui.
Ouais.
Et l'arbre généalogique permet justement de se resituer dans sa famille. Donc, la plupart du temps, moi, je propose vraiment de mettre des arbres généalogiques en fin d'ouvrage pour pouvoir vraiment resituer les uns les autres dans l'arbre.
On remonte là, en l'occurrence, jusqu'au 19e siècle, par exemple.
Oui, effectivement, là, le livre dont vous parlez, c'est l'histoire d'une famille sur 7 générations. Donc, effectivement, on va aux arrière-arrière-grands-parents de ma cliente et on arrive jusqu'à l'histoire de ses petits-enfants qui sont adolescents, là. Et donc, ça fait 7 génération. Alors évidemment, on a moins d'informations sur les petits jeunes et sur les tout anciens, mais on trouve toujours des choses, et c'est ça qui est assez intéressant. Là, en parlant d'elle, par exemple, un jour, elle me dit, ah ben moi, j'ai des poèmes de l'arrière-arrière-grand-père. Je dis, ah bon, est-ce que je peux les voir? elle n'aurait pas eu l'idée particulièrement de les mettre dans le livre. Et ben moi, je les ai lus d'abord et je me suis dit, non seulement ils sont super intéressants, bien écrits, artistiquement, d'un point de vue littéraire, mais en plus, en filigrane, l'historien peut déchiffrer ou au moins avoir des hypothèses sur ah ben là, il y a telle et telle info. Et en l'occurrence, cette dizaine de poèmes m'a permis d'écrire deux, trois pages sur cet ancêtre qui était poète à ses heures. Et sans ces poèmes, on aurait mis une ligne. Il est né à telle date, à tel endroit, mais on n'en sait pas plus.
Ça devient quoi une biographie une fois qu'elle a été écrite? C'est un objet qui nous appartient? On en fait.
Concrètement, on est co-auteur. Moi et mes clients, on est co-auteurs, on écrit tous les deux, mais mes clients, principalement, décident d'écrire un livre pour le transmettre à leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc concrètement, ils organisent une fête, ils organisent un moment de rencontre, de retrouvailles, et ils l'offrent avec beaucoup d'émotion à leurs enfants et petits-enfants. Souvent, c'est une surprise. Alors d'autres fois, c'est une idée cadeau des enfants et des petits-enfants qui aimeraient bien avoir les souvenirs des grands-parents et qui offrent un bon cadeau pour que les grands-parents se confessent, ou en tout cas racontent leur histoire en vue de resserrer les liens et de garder une trace, effectivement, de transmettre cette histoire-là. Après, je peux travailler aussi pour une célébrité.
Pourquoi pas?
Voilà, moi je suis ouvert à toute proposition. Après, dans le cas d'une célébrité qui va publier son livre chez un éditeur, parce que là, les livres de mes clients sont publiés chez Déraciné à la page, c'est ma maison d'édition, mais quelqu'un de très connu, si j'avais la chance de travailler avec Gérard Depardieu, par exemple, dans les domaines qui m'intéressent, l'histoire, la musique, évidemment que ça m'intéresserait de travailler avec des célébrités aussi.
Vous nous aviez donné votre contact au milieu de l'émission, mais on peut peut-être le rappeler, donc il y a un site internet, déracinealapage.fr, c'est tout attaché, et puis un numéro de téléphone on peut vous joindre?
Oui, le 06 52 42 91 31.
Et puis on les remettra sur notre site internet avec le podcast et la réécoute de l'émission. Je crois que vous aviez un petit message perso à faire passer aujourd'hui.
Oui, effectivement. Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir réinvité à votre émission. C'est très sympathique et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir communiquer sur les ondes à Villefranche. Et puis j'aimerais adresser un petit message à ma nièce, Rosalie, qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Donc voilà, si tu m'écoutes, Rosalie, je t'aime très fort. Prends soin de toi et à bientôt.
Et on lui souhaite tous un très joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Jérémy Fischer.
Merci à vous.
Et au plaisir.
Merci. Ensemble sur Calade.
Écrire une biographie, c'est se poser des questions sur l'âge. Moi, je vous propose d'écouter Oxmo Puccino qui nous chante À ton âge.
Et à quel âge? Oui, ton âge. Parce que c'est important. Non, c'est de la merde.
Ce morceau s'écoute seul vers 2h du mat, à refaire sa life quand le miroir te mate. Fais dire pourquoi ça va si vite, c'est mieux quand c'est pacifique. Le 0 à 10 t'évite les blessures, le 10 à 20 de qui t'es pas sûr. Après t'as moins de 10 ans, trouver un salaire, faire des petits enfants. C'est où t'as foiré vers le 4e quart, commence à comprendre que ça fait tard. Problème d'image, le temps des visages.
Décalage, chaque chose en son temps. Je m'entends encore à ton âge. Décalage, chaque chose en son temps. Je m'entends encore à ton âge.
Devant un petit cercueil, il me dit qu'il faut un âge minimum pour mettre un linceul. On n'aura pas tous plein d'enfants. On n'est pas vieux avant 100 ans. Lorsqu'on refuse de faire son âge, on devient ce personnage qui refuse le temps qui passe dans une tristesse efficace. Les mots devaient se propager. Je suis né trop âgé.
Décalage, chaque chose en son temps. Je m'entends encore à ton âge. Décalage, chaque chose en son temps. Je m'entends encore
à ton âge. Tout se dit dans le langage. On ne fait jamais son âge. Bientôt tu vas être au collège. Ailleurs c'est mitraillette. À ton âge, à ton âge. On veut pas que tu rentres. Au mien, on veut plus que je sorte. Soit t'es trop jeune, soit t'es trop vieux. Entre les deux, pareil que t'es con et c'est pas mieux. Tu manques de fond avec plein d'idées. Quand les moyens seront là, tu seras fatigué. Se régaler du vent sur la plage. Ces choses viennent avec l'âge.
Décalage, chaque chose en son temps.
Chaque chose en son temps, c'est ce que nous dit Oxmo Puccino à l'écoute d'Ensemble sur Calade avec le titre À ton âge.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous m'acquittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Oui, c'est l'heure de retrouver le coach tout de suite. Il est avec nous en studio. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
Bon.
Ben alors, j'ai bien fait de venir, dis donc. Il y a du monde dans le studio aujourd'hui.
Oui, il y a des petits visiteurs qui sont venus nous voir, effectivement.
En plus, moi, je suis arrivé un peu hésitant quant au sujet que j'allais aborder aujourd'hui. Et je découvre en arrivant au studio que tu es devenu formateur.
Ouais.
Le studio est rempli de gens qui viennent apprendre de toi.
C'est vrai.
T'es un genre de coach, mon petit, maintenant. Ça me met un peu dans l'émotion, dis donc. Je vois que tu suis, mais
je vais
pas
certainement pas prendre votre place, quand même.
Alors, comme je te disais, j'étais un peu hésitant parce que le premier sujet là, qui me vient en tête, en voyant que tu es devenu prof, bah, c'est de parler un peu de vacances scolaires,
hein,
et plus particulièrement celle du ministre de l'Éducation nationale, parce qu'apparemment, lui aussi, il a droit aux vacances scolaires, et que lui, il a fait Noël à Ibiza. Bon. La deuxième idée de chronique que j'ai, c'est une arnaque rhétorique qui sent fort la manipulation et qu'on appelle le choix illusoire. Alors dis-moi, gamin, tu la préfères sur quoi, la chronique? Sur Jean-Michel à Ibiza ou sur le choix illusoire?
Est-ce que ce serait pas un choix illusoire? C'est un piège que vous me tendez, coach.
Ouais, mais t'as pas choisi quand même.
Je vais prendre le choix illusoire.
Eh ben ouais, t'as choisi la deuxième possibilité. Enfin, t'as eu l'impression d'avoir le choix, devrais-je dire. Qui aurait envie de m'entendre déblatérer sur Jean-Mich en calbute à Ibiza pendant 10 minutes? Personne ne voudrait ça. Donc, par dépit, tu choisis le deuxième sujet. Tu es victime d'un choix illusoire, mais tu m'avais vu venir parce que, quand même, je l'ai bien formé, le gamin. Et ouais, il y a des vilaines et des vilains qui usent et abusent consciemment des choix illusoires. Le deuxième tour de la présidentielle est souvent un choix illusoire. Un choix par dépit, un choix que tu crois le moins pire. Les commerciaux, les vendeuses, les vendeurs utilisent ça tout le temps. Entre deux télés aux caractéristiques semblables, t'en as une qui fait 200 balles de moins. Eh ben, c'est pour te forcer à choisir celle-ci plutôt que l'autre, pour écouler les stocks ou parce que la commission est plus intéressante pour le vendeur sur la deuxième télé. Le choix illusoire, c'est la base aussi des tours de cartes en magie. Tu crois que t'as choisi librement la carte alors que le magicien te présente le paquet? Eh ben non, il t'a forcé la main. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de me fâcher avec tous les Gérard Majex et les Sylvain Mirouf qui nous écoutent. Bon, t'as compris le truc. Le choix illusoire, c'est quand une des propositions du choix que tu as à faire ne présente aucun intérêt par rapport à l'autre proposition. Genre, en accompagnement de ton steak, t'as le choix entre fenouil vapeur et gratin dauphinois. Si on faisait un peu une demande à Malvée, j'en suis sûr que le fenouil vapeur, il sera en train de pleurer dans un coin. Bref, le problème avec les choix illusoires, c'est que l'on utilise aussi ce procédé-là involontairement, en éducation. Les parents sont de gros manipulateurs qui s'ignorent. Tu sais, quand t'as « Mon petit cœur, tu prends ta douche avant ou après le repas ?» Le gamin a l'impression qu'il a le choix, alors qu'il est perdant sur les deux tableaux, il va devoir prendre sa douche. En faisant ce choix, il consent à prendre sa douche, alors que tout le monde sait que par défaut, un gosse ne veut jamais prendre sa douche le jour où il doit prendre sa douche. On fait tout le temps ça, dans la vie de couple. On va à la mer ou chez ma mère pour les vacances?
Ouais.
En plus, tu l'embrouilles avec une homophonie, t'es sûr d'aller bronzer avec Jean-Mich à Ibiza pour les vacances de printemps. Le problème avec le choix illusoire, c'est que ça fonctionne avec le consentement et le sentiment de liberté. Quand tu choisis, t'as l'impression de donner ton accord et de consentir. Tu as donc l'impression que c'est toi qui portes la décision et tu es prêt à l'assumer. Tu as le sentiment de conserver ton libre arbitre alors que tu t'es bien fait enfler. C'est donc important, mes louloutes, pour votre autodéfense intellectuelle, de savoir repérer ces choix illusoires et de vous en défendre. Pourquoi votre choix devrait se restreindre à seulement deux possibilités? Pourquoi pas une troisième? C'est comme ça qu'on sort du piège, en imaginant d'autres possibilités et en refusant de choisir. N'oubliez pas que choisir, c'est surtout renoncer. Alors, ce que vous refusez de choisir, certes, vous risquez de créer une situation d'opposition qui n'est pas très confortable, mais vous éviterez une manipulation volontaire ou involontaire. Alors dis-moi, gamin, tu as le choix. On arrête là ou j'enchaîne avec la chronique sur Jean-Michel Blanquer.
On va peut-être arrêter là, coach.
Ok, on arrête là.
Merci beaucoup, en tout cas, très bonne journée. Puis on se dit à tout bientôt sur Calade.
À bientôt, mon gamin.
Ensemble sur Calade.
Bon, si j'ai bien compris, ce n'était qu'une illusion. C'est ce que nous chante très justement Imagination. Fait un petit plaisir disco là, avec Imagination et leur titre Just an Illusion.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Tiens, est-ce qu'il est disco notre libraire Bertrand Lamure?
Imagination, oui. Alors on va partir dans l'imagination, ça c'est sûr.
Bonjour, comment allez-vous?
Eh bien, très bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver en 2022.
Et oui, enfin.
Enfin.
Alors, 2022, comment vous l'abordez, Bertrand?
Je crois qu'on n'ose plus dire qu'on l'aborde avec joie ou autre dans ces temps où c'est un petit peu tendu. Non, nous abordons, comme chaque année, 2022 commence bien évidemment avec une rentrée littéraire.
Ouais.
Dans rentrée littéraire d'hiver, les auteurs, les éditeurs sont toujours aussi talentueux, puisqu'on a encore plus de 500 romans qui sortent entre janvier et février. Et donc, bien évidemment, nous avons des coups de cœur.
500 romans, c'est quand même
colossal. C'est colossal. Alors, il y a des romans qu'on attend, il y en a d'autres, on se dit, on verra. Il y avait Le Monument National qui est sorti d'un certain Michel Houellebecq, si ça parle à quelques-uns. Mmh. Alors, j'allais dire que nous, on va le laisser faire sa vie, Michel Houellebecq. Hein, et même s'il paraît que dans son dernier roman, il est question de Villefranche et du Beaujolais. Ah. Donc là, il faut que je creuse un petit peu l'affaire. Alors, évidemment, nous, on commence avec celui que j'attends chaque année. Là, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'attendais. C'est bien évidemment Éric Vuillard. Alors, Éric Vuillard est un romancier, mais également historien.
Ouais.
Il a beaucoup écrit. Alors, il avait écrit un très beau texte sur le 14 juillet, la journée du 14 juillet. Il avait fait un roman qui était L'Ordre du Jour, qui lui avait lu le Goncourt en 2017, autour d'un certain Hitler qui prenait le pouvoir. Et là, il fait de nouveau un roman. Alors, c'est toujours des romans, mais quelque part, ça s'appuie sur des faits. Et là, ça s'appelle Une sortie honorable.
D'accord.
Alors, derrière la couverture qui est absolument magnifique, en fait, c'est la guerre d'Indochine. C'est la guerre d'Indochine qui va aborder, moi je dis toujours, il l'aborde au scalpel, c'est-à-dire qu'il prend un événement, il le creuse, et de là, il en fait son histoire. Et ça commence dans les premières pages avec des inspecteurs qui sont donc en Indochine. Donc déjà, inspecteur du travail en Indochine, ça on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il leur a pris? Donc c'est vraiment les premiers inspecteurs dans les années 20-30 qui vont là-bas. Et évidemment, ils sont totalement horrifiés par ce qui se passe dans les usines, ou plutôt dans les plantations, en particulier de l'entreprise Michelin. Voilà. Et de cet événement qui montre bien tout l'horreur de la colonisation, on va déboucher quelques décennies après sur cette fameuse guerre d'Indochine, où lui, il prend le coup de projecteur entre la 4e République, est incarné ici par Édouard Herriot. Il y a un portrait d'Édouard Herriot qui est absolument extraordinaire. Et on se retrouve en plein cœur de cette guerre d'Indochine, et en particulier à Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, tout le monde connaît, la fameuse bataille. On pensait que ce serait la bataille décisive. C'est celle qui nous a anéantis. Et elle est dirigée par un certain De Castries, Christian De Castries. Et ce qui est pareil, on en revient, donc la famille De Castries, grande famille française, à la généalogie qui remonte au Moyen-Âge. On a encore aujourd'hui, je crois que le patron d'AXA, ça doit être un De Castries. Et du coup, c'est montré comment, au final, tout ceci, entre Michelin, les notables de la 4e République, la guerre d'Indochine, bon, bah, tout était fait pour faire de cette Indochine un réservoir économique, un réservoir à gros sous, on va dire. Mmh. Et on en ressort avec un livre qui nous a vraiment scotché. Vraiment superbe.
Très bien.
Donc on est entre roman et récit, une sortie honorable d'Éric Vuillard. Voilà, donc je me suis emballé sur Éric Vuillard. Et du coup, bah, je continue mon emballement sur une autre auteure qu'on attendait avec grande impatience, qui est Jeanne Benhamer. Donc Jeanne Benhamer, pareil, une auteure qui a beaucoup écrit. Alors on est vraiment sur la liberté de l'être humain, sa volonté de s'en sortir, sa volonté d'être dans les émotions, de casser les chaînes. Donc toujours une très, très, très belle écriture. Et là, elle revient avec La patience des traces. Mmh. Alors, La patience des traces, c'est l'histoire de Simon, qui est un psychanalyste. Il vit à La Rochelle.
Ouais.
Jeanne Benhamer vit aussi à La Rochelle. Et il est toute la journée sur son fauteuil, hein, en train d'écouter des personnes qui sont sur le divan. Et on sent qu'il n'y arrive plus, quoi. Ça coince, etc. Et il va réussir, grâce à un ami qui lui dit, il faut que je parte, il faut que je trouve autre chose. Ça commence d'ailleurs, la première scène, c'est un matin, il prend son petit-déj, et depuis 20 ans, il prend son petit-déj toujours dans la même tasse.
Ouais.
Une tasse qui a une histoire. Et ce matin-là, la tasse se casse. Donc, comme le fameux signe qu'il faut peut-être changer quelque chose. Ou pas. Voilà. En tout cas, cet ami lui propose d'aller faire un break, ouais. Et il reviendra, quand il reviendra, sur une petite île japonaise. Et il se retrouve sur une petite île japonaise dont on rêve tous, hein, je tiens à préciser, hein. C'est-à-dire que c'est une île, il fait chaud, il y a la mer, il est dans une petite case de bambou, et c'est un couple qui l'accueille, un couple de personnes âgées, un peu mystérieux, très avenant, pas dérangeant, mais qui ont aussi tout un parcours. Donc là, évidemment, on est très jaloux, parce qu'on aimerait effectivement nous aussi d'être dans cette île et un peu... aller vers l'ailleurs. Et donc là, Simon, c'est une reconstruction. Quand il est face à lui-même, il est face à sa vie, face à tous les tourments qui ont été qu'il a eu dans sa vie. Mmh. Et alors, ce que je dis toujours, moi, quand j'en parle, ça aurait pu devenir un feel-good book basique.
Ouais.
En disant, voilà, le type qui va sur une île japonaise, et ça y est, il s'est retrouvé, et maintenant il va mieux. Voilà. Mais il y a une telle écriture, il y a une telle beauté de l'écriture que il y a des paragraphes ou des phrases où oh là là, je la relis tellement c'est beau. Voilà. Et ça c'est quand même extraordinaire de trouver ça chez un écrivain où on se dit oh non, je crois que je vais relire cette page tellement elle est belle. Voilà. La patience des traces de Jeanne Benhammer.
Ouais, ça a l'air tout en poésie, en finesse,
ah ouais, très beau.
Ça donne envie de magnifique. Se plonger dedans.
Ouais. Je continue, peut-être un peu rapidement.
Ouais.
Un certain Poquelin, dont nous fêtons les 400 ans cette année.
Merci.
Voilà, donc Monsieur Molière. Et ça donc Monsieur Molière, Ève de Castro, qui est une écrivaine mais aussi historienne, spécialiste du XVIIe siècle, nous propose ici un roman entre deux personnages qui se sont admirés, qui se sont haïs, qui se sont détestés. C'est Molière et Corneille. Avec la fameuse invention, mais qui date du XXe siècle, comme quoi Corneille aurait écrit beaucoup de pièces de Molière. Aujourd'hui, les historiens disent que, bien évidemment, ce n'est que foutaise. Et là, on part effectivement dans ce fameux Molière. Alors, ça casse quelques clichés. Hein, le Molière qui n'avait pas de fric, des dettes qu'elle a en prison. Évidemment, tout ça, c'est faux, vu que son père était le tapissier du roi et que lui, il avait aussi de quoi faire. Mais c'est un joli portrait, c'est un beau portrait, justement croisé entre Molière et Corneille, et évidemment Mesdames Béjart au milieu. Très très bien écrit, très intéressant, et puis on était obligés, nous, en ce mois de janvier 2022, évidemment de se tenir au courant sur Molière.
Ah ben on va en parler toute l'année, donc
bien sûr. En attendant, attention, parce que 2022 c'est aussi l'année Proust.
Ah oui.
Donc évidemment, Mathieu, que tu n'as pas lu Proust, c'est le moment de s'y mettre.
Oui, bah là, il y a du boulot, je crois.
Il y a du boulot. Je continue avec un texte très touchant, très dur, très beau, de Rachid Benzine. Donc Rachid Benzine est un auteur qui est aussi islamologue, conçu depuis longtemps. Il avait écrit, entre autres, « Ainsi parlait ma mère »,« Dans les yeux du ciel ». Et là, il revient avec un petit texte qu'il faut lire d'une traite, parce que voilà, c'est à la force d'une lecture d'une traite. Ça s'appelle « Voyage au bout de l'enfance ». Et c'est un jeune garçon, Fabien, dont les parents décident de partir en Syrie, donc de rejoindre bien sûr le djihad. Et on va suivre ce garçon, qui est un petit, voilà, il habite à Sarcelles, c'est un petit fouteux, il aime aussi la poésie, il a plein de copains, et il part. Et là, effectivement, c'est tombé dans l'horreur, dans l'enfer. Et quand on a fini, on se pose aussi la question sur le fameux retour ou non de tous ces enfants qui sont actuellement dans des camps. Voilà, un texte à lire d'une traite et qui vraiment vous prend aux tripes. Magnifique, magnifique.
Très bien.
Et je termine.
Ouais.
Avec Julia Deck. Alors, Julia Deck, on l'avait découvert dans Propriété privée, c'est-à-dire les charmes de la propriété privée, avec tout ce que ça a derrière quand on devient propriétaire. Et là, elle revient avec Monument National. Alors, c'est assez génial, c'est très drôle, c'est très bien fait. C'est aussi une écriture qui est très fine. Voilà. Et alors, c'est l'histoire de Serge. Serge est un homme qui est une sorte de gloire nationale. On ne sait pas si c'est un acteur, si c'est un chanteur. Alors, il y a quelques indices.
Ça me fait penser à un personnage.
Voilà, il est né le 15 juin. Donc à vous de voir quel grand personnage ultra célèbre est né le 15 juin. Et il a épousé en troisième noce Miss Provence Alpes-Côte d'Azur. Donc, tout de suite déjà ça place le personnage. Ouais. Ils ont des jumeaux qu'ils ont adoptés. Ils sont dans un château et ils ont des domestiques, etc. Et c'est tout ce monde-là qu'on va découvrir. Donc avec les le côté people, Paris match, closer, est-ce que vous voulez. Et bah, évidemment, le revers de la médaille, et Julia Beck est une auteure qui a un grand talent pour disséquer comme ça un monde qui paraît ultra superflu. Et en même temps, voilà, on va voir, parce qu'il y a aussi un autre pan de ce livre où justement on est avec une femme qui, elle, bosse aux prises uniques du coin. Donc c'est pas tout à fait la même vie que notre Serge National. C'est très drôle, très bien fait, très corrosif. C'est parfait pour commencer 2022.
Parfait. Comment ça s'appelle exactement, Serge?
Non, pas du tout, je ne l'ai pas dit, ça s'appelle Monument National, aux éditions de minuit, donc c'est aussi la finesse des éditions de minuit, etc. Donc Julia Deck, Monument National, Rachid Benzine, Voyage au bout de l'enfance, Eve de Castro, L'autre Molière, Jeanne Benhamer, La patience des traces, et évidemment Éric Vuillard, Une sortie honorable. Voilà, 5 premiers coups de cœur sur les centaines de romans qui sortent en ce début d'année.
Parfait, merci beaucoup Bertrand, à la semaine prochaine.
Ben merci à tous, et puis belle journée et belle semaine à tous.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah, il me reste juste le temps de vous rappeler que cette émission sera à retrouver en podcast sur radio-calade.fr et puis en rediffusion à partir de demain matin à 10h. Et quant à moi, bah, je ne vous donne pas rendez-vous demain à 12h12. L'émission aura bien lieu, mais c'est pas moi qui vais l'animer, je la confie à d'autres animateurs. Et elle n'aura même pas lieu depuis nos studios à la radio, puisque jusqu'à vendredi, l'émission Ensemble sur Calade part en vadrouille. Je vous conseille de suivre cette aventure. À bientôt.